RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paulo Madureira, CEO de New Immo et président de la Chambre Immobilière. Bonjour.
Bonjour.
François-Xavier Guillen, manager des ventes chez Thomas et Piron.
Bonjour.
Et Jean-Paul Scheuren, vice-président de la Chambre Immobilière.
Bonjour.
On se retrouve en ce début d'année 2025 pour discuter de l'état du marché de la VFA, un marché qui a beaucoup souffert ces deux dernières années et qui peine à repartir malgré les aides gouvernementales annoncées l'année dernière. Des aides qui ont d'ailleurs été prolongées jusqu'à l'été prochain. Alors je vous adresse cette question à tous les trois. Où en est le marché de la VFA et à quoi doit-on s'attendre dans les 11 mois à venir ?
Je pense que le marché de la VFA, on voit le bout du tunnel. Donc on a bien vu qu'en mois de décembre, les ventes ont bien reprises. On espère évidemment que ce n'était pas un effet seulement des aides qui arrivaient, qui étaient censées être arrivées à terme au 31/12. Finalement, elles ont été prolongées jusqu'en juin. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un argument très fort pour le client pour se lancer, aussi bien pour l'investisseur que pour la personne qui achète pour son propre compte, parce que les aides sont quand même, sont quand même élevées. Donc, il y a vraiment de l'intérêt à se lancer dans un projet et ne pas attendre, surtout avec des loyers qui sont aujourd'hui au stade où ils sont. Donc, nous voyons le bout du tunnel et sur les 11 mois qui sont devant nous, nous sommes confiants que nous allons... De l'autre côté aussi, avec les efforts que nous allons faire, notamment avec notre charte, redonner la confiance aux clients pour que le marché redémarre.
Très bien, c'est une vision que vous partagez, M. Guillen, M. Madureira ?
Alors oui, on voit une nette évolution depuis quelques semaines et c'est tant mieux. Force est de constater que la VFA, on a vécu deux années très très compliquées qu'on a maintenant derrière nous. Il faut voir l'avenir de manière plus positive, ça c'est sûr. Nous constatons chez Thomas Piron que toutes les VFA que nous rentrons aujourd'hui, c'est principalement des biens en construction ou en fin de construction. Ça, c'est une caractéristique très claire sur le marché aujourd'hui. On a la chance d'avoir préconstruit beaucoup de logements, d'appartements ou de maisons ou de commerces. Et aujourd'hui, on voit que c'est d'abord ce bien-là qui génère moins de risques aux yeux des banques et aux yeux des investisseurs. Les biens en phase de construction déjà sont les biens qui sont ciblés par nos potentiels clients. Les ventes VFA sur plan, quant à elles, sont beaucoup, beaucoup plus rares alors qu'elles étaient existantes et nombreuses auparavant. Et un des défis de demain, ça va être de relancer ce secteur de vente sur plan avant le démarrage d'une construction. Mmh. Je pense qu'il sera compliqué pour la plupart des constructeurs et des promoteurs de préfinancer toutes les constructions du marché. Il faut absolument que le secteur ait de nouveau confiance et soit attiré par des projets toujours sur plan avant la phase de démarrage chantier.
Et comment on relance la confiance dans ce secteur ?
Alors, il y a des initiatives intéressantes qui ont été prises. La confiance est un élément majeur, à mon avis, de la reprise immobilière. Le marché est en perte de confiance. On voit, on entend des clients qui ont peur, des investisseurs qui ont peur d'avancer, qui se demandent si c'est le bon moment pour acheter. Et nous pensons, je pense que c'est le bon moment d'acheter. Les initiatives qu'il faut continuer, il faut disperser des initiatives telles que celle de la chambre immobilière, de pouvoir donner confiance aux clients avec des chartes, de pouvoir donner confiance aux clients avec de la communication. Donc les différents acteurs doivent communiquer dans le même sens, en disant que c'est acheter du neuf, acheter de la VFA, c'est une bonne chose et c'est très intéressant. Mais il faut que tous les acteurs parlent d'une même voix et aillent dans le même sens. Moi, j'attends également que les banques et que l'État continuent de promouvoir le neuf. Les banques ont leur rôle à jouer, l'État a joué un rôle important en prolongeant les mesures, et tant mieux, ces mesures elles servent, mais il faut également que tous les acteurs aillent dans le même sens, communiquent dans le même sens, et que les banques également fassent cette communication qu'acheter de l'immobilier neuf, c'est une chose intéressante. Elles ne l'ont pas fait suffisamment à nos yeux, à mes yeux, les dernières années.
Monsieur Madureira, cette année 2025, vous la voyez du même œil ?
Je ne vais pas répéter ce que mes confrères ont déjà dit ici, mais effectivement, je ne peux que confirmer ce qui a été affirmé. Nous avons constaté les derniers mois, le dernier trimestre principalement, une réelle évolution dans la demande de VFA. Donc il y a de nouveau un certain intérêt pour les constructions neuves. Aujourd'hui, on a encore un peu de mal, certes, à conclure des contrats, mais depuis 2025, depuis la rentrée, grâce entre autres aux aides de l'État et à l'état du marché, les prix ont également contribué à ce renouveau que nous avons actuellement. Je pense que 2025, si en plus on a une petite aide de nos confrères banquiers qui doivent participer à cet effort national, je pense que que très honnêtement, on sera sur la bonne voie à partir du deuxième trimestre.
Donc la question, je la pose, hein, mais je pense que vous y avez déjà partiellement répondu. Au mois de novembre, le ministre du Logement, dans cette émission, se montrait assez optimiste hein, quant à l'évolution du marché de la VFA. Il avait notamment parlé des notaires qui avaient du mal à suivre le rythme imposé par le nombre de nouvelles ventes. C'est quelque chose que vous confirmez. Est-ce que c'était vraiment dû, parce que c'est une question à laquelle il n'a pas pu répondre, mais est-ce que c'était pas plutôt dû au nouveau élan qu'il y avait sur le marché de l'existant?
Mais c'était, je pense qu'au moment où vous avez interviewé le ministre Maïch, on était encore plutôt dans la perspective que les biens existants avaient bien repris, donc le marché des biens existants avait repris, et que les VFA restaient encore à la traîne. Mais c'est vraiment, le décollage s'est vraiment fait au mois de décembre. On était très contents de pouvoir faire des études par rapport à ce mois de décembre, de vraiment pour pouvoir démontrer qu'effectivement, il y a eu un démarrage et que nous espérons que ce démarrage va aujourd'hui, la petite flamme qui a été qu'on réussira à animer cette petite flamme pour qu'elle devienne à nouveau un feu dynamique, pour qu'on revienne au niveau des logements qu'on a connus dans le passé. Il faut savoir que la situation qui était qu'avant, on pouvait vendre jusqu'à 80% d'un projet simplement sur plan en faisant une commercialisation tout à fait normale. Aujourd'hui, évidemment, on sort d'une crise quand même triste, très profonde. Je pense que Luxembourg n'a plus connu de crise aussi profonde depuis 30 ans. Et cette crise s'est incrustée dans les têtes et est devenue une crise de confiance. Et sortir d'une crise de confiance de cette façon-là, évidemment, les gens, ils vont d'abord se poser la question, est-ce que le prix est bon? Maintenant, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le prix, effectivement, ils sont arrivés au creux. Donc, ce qui est aujourd'hui sur le marché, on est dans les prix du marché. Ensuite, il se demande, est-ce que la personne qui veut me vendre mon bien, est-ce qu'il va arriver au bout de son opération? Pour un bien existant, évidemment, c'est beaucoup plus facile que pour un bien que vous achetez sur plan. Il faut savoir qu'un développeur, mais sa capacité de vente dépend de la confiance que le client a en lui. Parce qu'en fait, on a un plan, on vend quelque chose qui va venir à un client, et il est tout à fait clair qu'on doit jouer sur la confiance, on doit montrer sa confiance, on doit montrer ce qu'on a fait dans le passé pour que le client agisse. Ça, on avait dans le passé un peu moins de mal. Aujourd'hui, il y a plus de mal, mais on voit qu'avec les grands noms, tous ceux qui sont bien connus sur le secteur, commencent quand même à ressentir que le client reprend confiance. Et évidemment, vous avez énormément d'avantages, mis à part les avantages que vous avez dans l'achat d'un bien avec les aides d'État. Mais vous avez aussi tous les avantages que vous pouvez définir votre bien, vous pouvez le faire à votre sauce, et vous accompagnez le projet dès le départ. Donc, c'est vraiment votre logement que vous avez terminé. Et là-dedans, vous avez énormément, évidemment, d'avantages de pouvoir démarrer et déjà de mettre les cloisons là où vous voulez. C'est un logement tel que vous le désirez. Il est vraiment tip-top par rapport à vos besoins. Donc la VFA a effectivement cet avantage, mais l'inconvénient. C'est pour ça que nous nous sommes posé la question, comment est-ce qu'on peut regagner la confiance du client? Et on s'est dit, mais il y a quatre facteurs sur lesquels il faut intervenir. Le premier facteur, c'est quoi la garantie d'achèvement? Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Ça a été beaucoup dans la presse, mais jamais personne n'a expliqué ce que c'est. Donc c'est très bien que nous nous engageons à bien expliquer au client ce que c'est la garantie et c'est qui couvre cette garantie. Le deuxième sujet, c'est quand je construis, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un sinistre ou quand il y a un vice? Mais le vice, nous, on a une garantie pendant 10 ans. Si l'entrepreneur meurt, mais le promoteur est toujours là ou le développeur est toujours là, il doit prendre cette responsabilité à charge et c'est sa responsabilité. Elle est 10 ans pour les gros ouvrages, 2 ans pour les menus ouvrages. Qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert? Ça, c'est un engagement, deuxième engagement qu'on prend informé là-dessus. Troisième engagement, les délais. Un délai, c'est un élément essentiel. Quand est-ce que je démarre? Quand est-ce que je vais terminer mon bien et m'engager là-dessus? Ça, c'est un élément effectivement essentiel, surtout quand les taux ont augmenté, c'était devenu encore plus essentiel de savoir à quel moment je peux rentrer dans mon bien. Et finalement, le dernier point, c'est le prix. Qu'est-ce qui est compris dans mon prix? Est-ce que je dois m'attendre à des suppléments? Est-ce qu'il y aura des frais qui sont cachés? Donc, restez vraiment très, très, très transparent sur le prix pour que le client puisse vraiment déterminer son prix final. Et ça, c'est les éléments essentiels que nous pensons qui font qu'un client va à nouveau s'engager sur une VFA. Et c'est là-dessus que nous avons fait notre charte. Nous nous sommes engagés et nous avons mis à disposition du client une checklist qu'il peut soumettre à tous ses développeurs avec lesquels il veut travailler et sur lesquels il peut les challenger par rapport aux questions qui peuvent se poser dans ce secteur.
Quand vous dites nous, on est bien d'accord que vous parlez de la chambre immobilière.
Évidemment.
Juste pour revenir à un volet plus commercial, depuis, je ne peux qu'affirmer en tant que président de la chambre immobilière, mais également en tant que CEO de l'agence New Immo. Donc New Immo, on fait principalement de la vente en état futur d'achèvement, donc justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pendant presque une année et demie, on avait très très peu de demandes, très très peu d'intérêt. Donc c'était l'état du marché effectivement, mais depuis septembre et depuis surtout l'annonce du gouvernement avec les aides qui ont été décidées, on voit qu'il y a de nouveau un regain d'intérêt concret. Les investisseurs privés qui étaient disparus ou qui ne se manifestaient plus auprès de nos agences et de nos promoteurs, 1, 2, 3 n'étaient plus disponibles, ne s'intéressaient plus à la VFA. Or, depuis la septembre, décembre et janvier, on constate un réel regain d'intérêt sur la VFA, pas seulement parce que les prix ont baissé, mais également grâce aux aides qui ont été mises en place.
On revient un petit peu sur les aides fiscales qui ont été mises en place par le gouvernement luxembourgeois l'année dernière. Donc l'amortissement accéléré, Belgian Act pour les investisseurs, réduction de l'imposition sur la plus-value. Je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'elles ont eu un effet positif sur le marché.
Il ne faut pas oublier les aides qui ont été mises en place, qui sont quand même substantielles au niveau des acquéreurs pour compte propre, qui est évidemment la TVA à 3%, mais les subventions d'intérêt pour lesquelles ils ont vraiment augmenter très largement les revenus à partir desquels on a accès à cette aide substantielle dans un domaine où le taux d'intérêt est élevé. Donc nous invitons tout le monde à aller vérifier s'ils ont droit à ces aides, parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte, les mesures étaient annoncées, mais les gens ne bougeaient pas, et on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas les mesures ou ne savaient pas à ce que ça avait comme répercussion sur leur prix d'acquisition, sur leur capacité de remboursement, respectivement sur leurs besoins de financement.
On doit mettre un petit bémol, hein, peut-être, si on peut juste mettre un petit bémol. Il aurait peut-être fallu communiquer un peu plus sur les aides qui ont été allouées justement, soit au niveau de l'État, oui, si vous me le permettez, mais également au niveau du marché et au niveau de nos confrères, que ce soit agences immobilières ou promoteurs. Malheureusement, c'est passé un peu à la trappe. Personne n'a vraiment pris le taureau par les cornes, si je puis dire, et n'a pas communiqué là-dessus. Et ça, c'est malheureusement un peu dommage.
Disons que nous, on a lancé une campagne, avec la section des développeurs, avec différents autres partenaires. On a lancé une campagne pour justement ramener cette information. On a créé le site aide.lu. On aurait préféré avoir 10 fois plus de budget pour le faire. On aurait préféré aussi avoir plus de soutien peut-être public pour aller vers la communication, mais on sentait quand même notre responsabilité aussi pour le faire. Mais aide.lu, c'est aujourd'hui le site de référence qui a été repris par toutes les banques, qui est répertorié sur tous les sites immobiliers aujourd'hui, parce que c'est le seul site qui vous permet de calculer, faire une simulation de votre aide et de vraiment faire sur votre cas, de pouvoir. C'est un site qui va évoluer. Bientôt, à partir du site, vous pourrez accéder à myguichet.lu pour pouvoir directement faire votre demande, donc encore accélérer le processus. Mais c'est vrai. Il ne suffit pas de faire des aides, il faut aussi communiquer dessus et vraiment le faire pour que ça arrive chez les gens. Si vous regardez, des investisseurs traditionnels, ils savent ce que c'est un amortissement accéléré. Moi, on m'a ressassé les oreilles avec la loi Pinel, et j'ai posé la question, mais c'est quoi la loi Pinel? Mais on me disait, oui, on peut avoir jusqu'à 7 500 € pour un logement intermédiaire. Et j'ai dit, mais vous avez déjà calculé ce que représente un amortissement accéléré? Ça, c'est 6%. La valeur de construction par an, et ça pendant 6 ans, plus l'année d'achèvement, donc presque 7 ans. Donc à ce niveau-là, ça peut représenter 30 000 € que vous mettez en déduction de votre déclaration d'impôt chaque année. Donc c'est vraiment une superbe aide, et on remercie le gouvernement de l'avoir mis en place de cette façon-là, pour nous aider effectivement à relancer. Mais il faut effectivement bien expliquer. Et ça, on a aussi fait sur le site, on a expliqué comment l'amortissement se calcule pour que chacun puisse regarder, mais c'est quoi l'avantage et qu'est-ce que ça me rapporte au niveau de ma capacité de remboursement. Je pense que c'est des éléments essentiels. Nous allons continuer cette campagne, mais nous devons mettre un paquet pour y arriver et c'est ce que nous sommes en train de continuer à mettre en place.
Il faut continuer de communiquer. Les aides sont intéressantes pour les investisseurs ou pour les privés. Par contre, elles ne sont pas suffisantes pour faire redémarrer le marché immobilier. C'est un des piliers du redémarrage du secteur immobilier. Les risques pour les clients externes, pour les clients généraux, ils sont encore grands. Et l'angoisse est encore grande malgré les aides d'État. Et donc, il y a un vrai travail de communication. Mais il y a également, comme je le disais tout à l'heure, les autres secteurs qui doivent aussi communiquer. Les banques, c'est très important.
Exactement.
Pour pouvoir appréhender. On est toujours dans une crise profonde. On vient de connaître une crise très longue. On est toujours dedans. On est en train de voir que le marché bouge physiquement. Mais il y a un vrai défi de ne pas se satisfaire des aides qui sont mises en place et qui sont très bonnes. Loin de moi l'idée de dire le contraire. Mais il y a encore un gros travail à faire derrière.
C'est justement ce que je voulais également préciser. C'est qu'il y a trois acteurs qui doivent faire redémarrer le marché et trois acteurs qui font des aides. Un des premiers acteurs, c'est l'État qui a participé en votant donc les mesures que nous connaissons. Les promoteurs, d'une certaine façon, ont également aidé le marché parce que les promoteurs ont ajusté leurs prix. Et la VFA, entre-temps, sur 2024, a quand même été ajustée en moyenne de 11% de mémoire. Voilà, et donc là, on a les deux acteurs. Et la troisième aide, c'est quoi ? C'est les banques. Mmh. Et sans les banques et sans la participation ou une aide des banques à redynamiser le marché, nous aurons beaucoup de mal à évoluer. Donc on compte vraiment, peut-être un message général aujourd'hui, on compte vraiment sur nos chers confrères banquiers pour nous aider à faire redémarrer le marché.
Quand vous entendez le Premier ministre dire que c'est la dernière fois que ces aides, donc ces aides que vous vous accordez à dire qui ont été très utiles, seront prolongées, donc c'est bien la dernière fois, et qu'il faudra ensuite retrouver un équilibre sur le marché de l'immobilier, on parle bien de la date butoir, donc le 1er juillet 2025, vous réagissez comment ? Est-ce que l'État devrait ou pourrait faire plus ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit continuer avec la mouvance dans laquelle on est. On doit démarrer le marché maintenant. Je crois que toutes les conditions ont été mises en place pour maintenant que ça redémarre, avec ou sans aide. Maintenant, celui qui ne profite pas des aides jusqu'en juin, évidemment, après, il ne pourra pas s'attendre. Ce message est clair. Il ne pourra pas s'attendre à ce que ce soit encore une fois prolongé. Et nous, on reste confiants qu'on va redémarrer les projets parce que de toute façon, on a besoin de ces logements. Il faut se dire quand même...
La demande de logement est là.
La demande de logement est là et il faut dire aussi qu'il a besoin de logements.
Oui.
Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas à démarrer les projets qui sont dans les tiroirs, mais on continue à aller vers une vraie crise du logement au Luxembourg, et pas une crise maintenant des développeurs, mais une crise que les gens ne trouvent plus les logements, et qu'en ne trouvant plus les logements, on va voir les loyers extrêmement exploser, ce qui a vraiment sur l'attractivité du pays un très gros souci. Donc c'est un secteur essentiel, et nous devons tous ensemble, on vient de nommer maintenant tous les acteurs qui doivent intervenir, et pour faire avancer les choses, et c'est clair que tous ensemble on doit avancer. Nous, on est prêts, on a fait, pas plus tard qu'hier, on a fait une conférence, un point presse dans laquelle on a dit un des éléments essentiels, c'est qu'on soit sûr qu'on a devant nous les bonnes données. Parce qu'on part sur des données et on se rend compte que les données sont totalement lacunaires et elles sont assez vieilles aussi quand on doit faire des décisions politiques d'un côté, mais aussi de notre côté des décisions d'investissement pour se lancer sur un projet. Donc on a des données qui ne sont pas suffisantes pour vraiment analyser ce marché immobilier. Et nous, on propose aujourd'hui de faire des études beaucoup plus qualitatives en faisant des enquêtes auprès des professionnels, donc des développeurs,
des acteurs
ou des agents qui font ces opérations-là. Donc avoir des données qualitatives. Et de l'autre côté, avoir aussi, au niveau des banquiers, des réponses beaucoup plus claires. Par exemple, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on connaisse un peu le taux d'accord de crédit qui a été attribué. Est-ce que c'était 80% ou est-ce que c'est 60%? Si on avait fait ça en 21, la crise ne serait jamais allée aussi loin qu'on a été. Tout le monde s'est laissé berner par les chiffres et par l'annonce dans les journaux, les primantes. Donc on était dans une euphorie, vraiment, on connaît ça dans toutes les situations de crise économique. Il y a d'abord, il y a l'euphorie, ensuite la crise arrive. Et là, on s'est vraiment tous fait avoir et on est allé dans cette direction. On aurait dû avoir ces chiffres avant. Ça nous aurait permis de nous calmer et de voir qu'on était déjà en 2020 dans une situation où on avait fait augmenter les prix à un niveau où la demande n'y était plus. Donc, et ce redressement structurel, on a dû le faire de toute façon, avec ou sans Ukraine, etc.
Et juste pour revenir à votre question, plus précisément, les aides, elles ont été maintenant prolongées jusqu'au premier semestre. Et comme dans tout acteur de marché, les aides ou les subventions n'ont pas vocation à être votées ad vitam aeternam. Mmh. Il faut que ça cesse à un certain moment. Ça cessera lorsque le marché se sera, espérons-le, repris. Et pour avoir quelques retours de mes chers confrères et membres de la Chambre immobilière, je peux affirmer aujourd'hui que le retour d'intérêt à la VFA est de nouveau à l'ordre du jour. On a de nouveau des ventes qui se font, que ce soit maintenant pour des investisseurs ou pour habitation propre. Donc nous sommes confiants qu'à partir du premier trimestre, les choses vont pas revenir à la normale, parce que ça, c'est un peu prématuré, mais vont redémarrer.
Mmh. Alors je pense que s'il y a bien une affirmation qui met tout le monde d'accord, hein, c'est qu'il faut relancer la construction de logements au Luxembourg. Vous êtes des professionnels du secteur. À vos yeux, quelle serait la meilleure manière de s'assurer que la machine à construire reparte de plus belle?
Ben, il faut savoir que si nous, on a les commandes, si nous, notre projet démarre, avant que ça arrive chez l'artisanat, il se passe minimum 6 mois. Donc il faut vraiment que maintenant, au premier trimestre, on arrive à redémarrer cette machine, parce que ce serait vraiment malvenu d'attendre maintenant que les sociétés de construction devraient commencer à licencier. Je pense que l'État aujourd'hui devrait aussi, avec ses soumissions, sortir suffisamment, parce qu'on ne doit surtout pas perdre cette force de travail. C'est une force de travail qui connaît notre secteur, qui sait comment on travaille au Luxembourg. Il faut la garder ici, parce que le risque, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, ils ne vont plus revenir. Et là, on va se retrouver avec un autre problème encore plus renforcé.
Il y a eu la mise à place du chômage partiel, hein.
Éventuellement, on avait déjà envisagé. Je pense que c'est aujourd'hui, on sait que cette situation ne va pas perdurer, donc c'est éventuellement quelque chose à réfléchir. Pour cela, le gouvernement doit décider que le secteur en crise, il l'avait fait pendant une très courte période l'année dernière. C'est peut-être une bonne manière de réfléchir, mais en tout cas, personne n'a intérêt à ce qu'on perde la force vive dans la construction cette année.
À des défis des prochains mois et des prochaines années, il est bien là au niveau de la main-d'œuvre qui va construire les logements de demain. Des sociétés ont perdu de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre a quitté le Grand-Duché, ne reviendra probablement pas. Et donc il faut effectivement que l'État mette des mesures en place pour réattirer de la main-d'œuvre qui va construire les logements de demain. Aujourd'hui, clairement, il y a un stock de biens neufs qui sont en phase de construction, en phase de démarrage de construction, ou prêts à être démarrés par des constructeurs. Ce stock, il faut effectivement qu'on le vende, et c'est pour ça qu'on est content de voir que la VFA est en train de bouger. Mais une fois que ce stock sera diminué ou sera vendu, il y a de la nouvelle construction à redémarrer, et pour ça, il faut de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans les grandes années, on n'a jamais réussi à construire ce qu'on aurait dû construire, ce qu'on aurait pu construire par faute de main-d'œuvre. Dans les meilleures années, 2018-2019, il y a eu plus de 3000 logements construits, mais on aurait pu en construire plus s'il y avait eu plus de main-d'œuvre. Et demain, combien de logements est-ce qu'on sera capable de construire sur la place immobilière avec la main-d'œuvre qui sera là? Et ça, il y a une vraie crainte chez nous, chez Thomas Piron, dans les forces vives. Nous avons plus ou moins 300 personnes qui travaillent sur le territoire, sur nos chantiers. Et demain, il faudra que cette main-d'œuvre se renouvelle et avoir du sang neuf qui arrive. Ça, c'est un défi très, très important pour nous. Et alors, la deuxième phase sur laquelle je tiens à insister, dans les moyens termes ou le court terme, il faut que les procédures administratives pour pouvoir démarrer un chantier, démarrer un lotissement, démarrer des infrastructures de route, il faut que ces procédures administratives s'accélèrent. Aujourd'hui, quand on investit dans un terrain, il faut entre 4 ans et 12 ans avant que nous puissions poser la première pierre ou vendre le premier logement. Et donc ce délai, il est astronomique. Je n'ai pas fait de moyenne avec d'autres pays européens, mais le Grand-Duché pêche aujourd'hui par cette lenteur administrative, ce qui influe forcément le prix de vente. Une société qui achète un terrain, plus le temps passe, et plus elle met du temps à le vendre, plus les frais financiers s'accumulent, et plus la répercussion sur le prix de vente sera démesurée. Et donc il faut, et le gouvernement en a parlé, mais il faut que ces mesures rentrent en application, il faut des mesures fortes pour faire en sorte que des projets puissent sortir de terre beaucoup plus vite que ce qu'on a connu les dernières années.
Je te rejoins tout à fait dans ton analyse et je peux juste affirmer que suite aux dernières réunions avec le nouveau gouvernement que nous avons depuis 2024, on a quand même une grande avancée dans ce sens où on espère que la simplification administrative sera mise à l'honneur très prochainement. D'ailleurs, ils ont déjà annoncé quelques mesures qui vont dans ce sens-là. Donc, on espère que bientôt, nous n'aurons plus à attendre 12 années pour avoir une autorisation de bâtir, mais qu'elle sera réduite au strict minimum.
On sent vraiment que le gouvernement il a une vraie initiative à ce niveau-là. Donc, 37 mesures ont été annoncées dans les tables de logement auxquelles on a participé fortement dans toutes les réunions de la table du logement. Et toutes ces mesures sont vraiment là pour réduire les délais des grosses procédures et aussi pour permettre d'accélérer. Et un autre sujet extrêmement important pour permettre aussi de densifier notre tissu urbain, donc de créer plus de logements de façon plus compacte sur les mêmes surfaces. Bon, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de surfaces qui sont autorisées ou autorisables. Malheureusement, avec la densité de logements qui sont sur le projet, un exemple, vous avez 1000 m² que vous pouvez réaliser avec une résidence, mais bon, vous avez l'autorisation de faire 6 logements. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va réaliser ces 1000 m² parce que 6 logements à 150 m², ça ne vaut pas la peine. Ouais. Donc, on va construire beaucoup moins. On va peut-être construire 600 m², mais au lieu de cela, pourquoi ne pas prendre ces gabarits et mettre quelques logements en plus et avec la même main d'œuvre, on réussira à faire 10 ou 12 logements au lieu d'en faire 6 aujourd'hui. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment rentrer dedans. C'est aussi évidemment une responsabilité au niveau des communes parce qu'il y a une responsabilité au niveau de l'État mais aussi au niveau des communes. Mais nous, on a senti dans la table du logement que les communes aujourd'hui, ils ont compris que le problème du logement, ce n'est plus un problème des autres, ce n'est plus un problème des nouveaux étrangers qui viennent ici, mais c'est les électeurs, c'est les luxembourgeois, c'est tout le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un problème d'attractivité du pays et il faut créer ces logements, donc il faut trouver de nouvelles solutions. Et un des éléments là-dedans, c'est évidemment de densifier. Densifier, ça ne veut pas dire on va construire des tours, on va construire 10 étages de plus, mais déjà utiliser de façon efficiente le mètre carré qu'on a prévu de construire, c'est déjà une raison pour le faire. Moi, je suis confiant qu'avec un urbanisme de qualité et un urbanisme bien réfléchi, avec les mêmes surfaces qu'on aurait construites pour construire aujourd'hui 4000 logements, on réussirait à faire 6000 logements dont on a vraiment besoin pour avancer dans cette problématique.
Alors, très bien. Avec les peu de logements qui seront mis sur le marché cette année et potentiellement les deux années à suivre, est-ce qu'on risque pas de voir les prix s'envoler à nouveau parce que la demande, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Guillen, elle est toujours là. Le Luxembourg attire toujours autour de 10 000 personnes par an et il y a eu très peu de logements construits. Si je me trompe pas, alors là on parle plutôt de commandes que de construction. 2023 autour de 800, 2024 autour de 700. Livraison, moi les derniers chiffres qu'on m'a communiqué, c'est autour de 500 logements par an. On est alors vraiment, vraiment en dessous de ce que le Luxembourg a besoin.
Clairement, une hausse de prix aujourd'hui n'est pas du tout, à craindre. Aujourd'hui, tous les prix ont largement baissé. Tous les promoteurs, constructeurs ont fait des gros, gros efforts sur les prix de vente. Il y a vraiment des très, très bonnes affaires aujourd'hui et encore pendant les prochains mois qui arrivent. Ça, c'est clair. Et alors, oui, il faudra craindre un jour une hausse de prix si le marché reprend de plus belle, si les administrations ne délivrent pas suffisamment vite les autorisations de bâtir et s'il y a un engorgement de la demande par rapport à l'offre. Clairement, ce risque-là, il risque d'arriver à moyen terme. Mais à l'instant T, les prix ont baissé très, très fort. Toutes les statistiques le disent, toutes les statistiques le montrent, et donc aujourd'hui à l'instant T, sortons de la crise, faisons la promotion de la VFA, de la vente en état de futur achèvement du logement neuf, il est plus qualitatif, il faut aussi notifier que le logement existant a fortement monté en prix, le logement existant est 7-8% moins cher que le logement neuf si je ne me trompe en termes de chiffres, ce qui n'a jamais été connu auparavant, sauf erreur de ma part, et donc ça rend encore un petit peu peu plus intéressant le fait d'acheter un logement neuf qui est efficace énergétiquement parlant, qu'on a pu choisir soi-même sur plan quand on achète sur plan. Il y a toute une série d'avantages du logement neuf qu'il faut mettre en avant pour arriver à faire redémarrer la machine et faire sortir de la crise l'entièreté du secteur qui est descendu quand même très très bas. Et après, une fois qu'on aura déstocké, qu'on aura fait travailler les notaires, qu'on aura fait travailler toutes les filiales qui se trouvent autour du secteur de la construction, on observera ce qu'on observera. Mais je pense que à l'instant T, à très court terme, ne nous inquiétons pas de cette hausse de prix. Inquiétons-nous que le marché redémarre. On voit qu'il y a des frétiments du marché. On voit que ça bouge, on voit qu'on nous contacte. On a refait quelques VFA également, et les grandes agences les ont faites aussi. Mais je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt de s'inquiéter d'une hausse de prix éventuelle.
Vous savez, les hausses de prix, si je puis juste me permettre, on a connu des belles années, si je puis dire ça comme ça, mm-hmm. avec des augmentations de 14% annuelles. Une des plus fortes augmentations que nous avons connues, qui a surpris d'ailleurs un peu tout le monde, c'était l'année post-Covid, où il y a eu une augmentation des prix de 17%, donc, alors que personne ne s'y attendait. Au contraire, on s'attendait peut-être à une baisse des prix. Mais aujourd'hui, on peut réellement affirmer qu'il y aura certainement, à un certain moment, une augmentation des prix, un ajustement des prix à la hausse, forcément, mais plus dans les mesures que nous avons connues dans le passé, à 14 ou 17%. Avoir une augmentation de prix moyen de 4 à 5%, c'est tout à fait normal. Et par ailleurs, juste pour terminer là-dessus, vous savez, crise ou pas crise, tout le monde a besoin d'un toit. Mm-hmm. Ça, on ne peut pas y échapper, que ce soit maintenant à la location ou à la vente. Donc, à un certain moment, il y a des priorités, donc, ou des états de marché où la clientèle recherche plutôt une location. Cette recherche est en train de diminuer et les gens sont en train de se focaliser sur de nouveau l'acquisition. Quand on génère de l'acquisition, forcément, les prix vont être ajustés à la hausse.
Ouais. Alors, je vais revenir sur des chiffres que vous avez évoqués. Donc, vous parliez d'une augmentation des prix de l'existant. Alors, aux dernières nouvelles, les prix se stabilisaient sur l'existant, mais maintenant on sait bien que les chiffres de l'Observatoire de l'Habitat ont un certain décalage par rapport à la réalité du marché. C'est des chiffres que vous avez, vous, personnellement, l'augmentation de 6, 7, 8% des prix de l'existant.
Mon secteur d'activité est basé sur de la construction neuve, bien entendu, chez ouais. Thomas Piron. Par contre, on brasse une grosse quantité de contacts et de personnes qui cherchent à investir ou à se loger, qui eux, évidemment, font le tour du marché existant et réfléchissent également au neuf. La plupart de ces personnes circulent sur le marché et sur les différents portails immobiliers. Et donc oui, ce sont des messages qui nous reviennent. Ouais. On a vu le prix de ce bien existant. On considère que le bien neuf n'est pas beaucoup plus cher et qu'il est effectivement plus intéressant pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. Il faut bien se remettre dans le contexte qu'on vend des biens à des gens qui empruntent sur 20, 25, 30, 35 ans parfois. Ça, c'est la majorité des ventes de logements à des privés et puis à des investisseurs aussi. Et donc, c'est un investissement d'une vie pour la plupart de nos clients. Et donc, oui, il y a une réflexion qui est longue. On a notamment observé en 2024 un allongement des prises de décision de nos clients. Le client moyen met 4 mois avant de s'engager entre le premier contact, la première visite et le moment où il va s'engager contractuellement avec nous, ce qui était il est très très long, qui s'est allongé, probablement dû à un besoin de réflexion, dû également à des conseils des clients, le conseil des banquiers, le conseil de son entourage. Aujourd'hui, clairement, dans les 6 dernières semaines, on voit que ces délais ont tendance à se raccourcir parce que les gens comprennent que les prix ont baissé, que c'est le moment d'acheter, ils ne baisseront pas plus que ce qu'ils ont baissé aujourd'hui. Et que c'est bien de se décider et d'avancer vers le rachat d'une vie qu'ils vont rembourser pendant un paquet de temps.
Alors, je vous la pose la question, je m'attends à des réactions vives. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui, depuis des mois, depuis 2 ans, disent que pourquoi est-ce que les développeurs et les constructeurs ne baissent tout simplement pas leur prix ? Alors, l'explication, on l'a déjà eue dans l'émission. Hein, quand on achète un terrain à un prix très élevé, et puis derrière il faut encore construire, etc. Bien évidemment, on n'a pas beaucoup de marge hein, pour baisser les prix. Mais qu'est-ce que vous dites à ces gens qui se disent, c'est les développeurs, les constructeurs qui bloquent la situation.
Je vais juste, avant de passer la parole, je vais juste annoncer une petite statistique quand même. Ensuite, mes chers confrères pourront aller dans le détail. Mais les prix, les promoteurs ont baissé leurs prix. Les prix ont chuté en moyenne de 11%. Ils ont baissé leurs prix d'une façon ou d'une autre. Donc d'affirmer que les promoteurs ne baissent pas leurs prix, ce n'est pas tout à fait la réalité.
Non, il faut dire, si on a regardé les statistiques qui ont été publiées, c'était quand même, les statistiques sont publiées sur base d'un papier dans lequel on voit les 100 communes du Luxembourg. Et quand on voit ce papier, et que sur ce papier, il y a 80% de cases qui ne sont pas remplies, on se rend compte qu'annoncer quelque chose sur le prix, déjà un pays comme le Luxembourg, les prix moyens, c'est déjà pas un indicateur vraiment très intéressant. Et en plus, le faire avec des cases qui sont vides, donc il n'y a pas de transactions, ça devient vraiment des statistiques. Je pense que pour tout le monde, c'est un peu difficile de s'exprimer là-dessus. Donc les gens ne savaient pas où allait le prix. C'était ça beaucoup la discussion, parce qu'effectivement, les seules données qui étaient publiées, c'était celles qui sont notamment celles du Statec et de l'Isère.
La publicité foncière.
Et avec, malheureusement, cet effet qu'il n'y avait pas suffisamment de transactions pour avoir des données fiables. Aujourd'hui, on voit que les transactions reviennent et le prix du marché est en train de se remettre en place. Il faut quand même savoir que depuis 2022 ou 2021, le développeur, il a subi des hausses d'intérêt. Il a subi des hausses d'intérêt beaucoup plus grandes que celles de ses clients. Parce que nous, on était tous en taux variable, ça n'existe pas pour nous un taux fixe. On a subi tous ces taux d'intérêt. Donc on a porté les projets pendant 2 ans supplémentaires avec des taux d'intérêt qui étaient au-delà de 6%. Ensuite, on a connu des augmentations des prix des constructions jamais connues au Luxembourg. 40% d'augmentation de différents matériaux. Donc, on était vraiment sur des prix de construction extrêmement élevés. Et un développeur, malheureusement, lui, il travaille à un prix de revient. Si vous vendez un bien existant, il n'y a pas de prix de revient. Vous avez acheté ça il y a 20 ans, ce bien-là, mais quelle est sa valeur? Mais c'est la valeur que vous savez récupérer sur le marché. Mais là, pour vous, dans votre bilan, il n'a pas un prix de revient comme c'est le cas pour le développeur. Un développeur, il a son prix de revient. Évidemment, chaque banquier qui doit lui donner un crédit, il va lui demander s'il ne fait pas de marche, mais je ne vais pas te donner crédit. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne voit pas la possibilité pour les développeurs d'avoir fait des efforts supplémentaires par rapport à ça. En tout temps, nous avons connu 5 tranches indiciaires qui sont venues se greffer sur les intérêts. Nous avons payé l'énergie sur nos chantiers, nous avons payé énormément de frais, nous avons dû préfinancer le projet parce qu'on a dû les porter beaucoup plus loin que dans le temps. Donc si on regarde aujourd'hui en dessous de la ligne, les 10% de réduction qui sont annoncées représentent totalement autre chose au niveau de la marche. Donc on est vraiment arrivé à un niveau où ça deviendrait éventuellement non sain d'exiger encore une baisse des prix. Évidemment, on peut dire baisser les prix, ça aurait pu peut-être relancer la demande. Mais si je baisse mon prix et qu'après je dois arrêter mon activité, parce qu'une société qui ne fait pas de bénéfices, elle ne va pas sentir revenir. Il y a évidemment les tout grands qui ont des toutes grosses réserves. Ils peuvent se dire, oui, nous, on doit faire tourner la machine. Donc on va sur le marché et après, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire la trésorerie pour continuer. Mais aujourd'hui, il faut se dire, ceux qui avaient bien préparé la crise. Il faut se dire qu'il y en avait qui étaient mieux préparés que d'autres à la crise, qui étaient déjà qui commençaient en 21 à se dire, oulala, on est en train de pousser les prix. C'est une des raisons que je pense que les prix ne vont plus démarrer aussi vite que ça a été le cas dans le passé. En 2020 et en 2021, on sentait déjà qu'on avait fait dépasser la cote à laquelle on pouvait encore s'assurer
l'activité
que la demande y était. Donc l'activité était déjà en train de chuter avant la crise de 22. Donc, et quand on regardait les informations qui étaient dans la presse, c'était le prix, ça monte, 13%, 12%. Chaque trimestre, on nous faisait une information de ce type. Personne ne regardait les transactions. Parce que si on regarde les transactions, on se rend compte que déjà en 2020, on était en train de baisser 21 et ça aurait dû être le signal d'alarme pour tout le monde et tout le monde aurait dû se mettre autour d'une table et dire mais écoutez, on est en train de tuer notre propre marché. Il faut regarder, il y a dans le secteur de l'immobilier, on a les problèmes conjoncturel, donc ce qu'on est en train de parler depuis presque une heure maintenant, mais il y a aussi les sujets structurels. On a parlé de la main-d'œuvre. Pour résoudre ce conflit, on ne passera pas à une standardisation, à l'industrialisation du secteur. Il faudra passer par là. Et il faudra passer par la digitalisation. Il faut avoir une digitalisation des process. Il faut faire un effort pour que les clients aient un processus dans l'acquisition qui soit beaucoup plus lean, qui soit beaucoup plus clean, et qu'il ait une expérience client qui soit vraiment, soit vraiment digne du produit qu'on lui vend. De l'autre côté, le financement. On se rend compte aujourd'hui que les banquiers, ils lorgnent sur le secteur du retail, donc sur le client privé qui va acheter, ils vont continuer à faire du crédit comme jusqu'à maintenant. Mais sur le développeur, ils sont en train de se poser la question, oui, est-ce que le secteur du développement immobilier, c'était encore un secteur pour les banques? C'est pas un secteur trop risqué? Est-ce qu'eux, il ne faudrait pas mieux d'aller se refinancer autrement? Et on voit aujourd'hui que le secteur du financement est aujourd'hui challengé. Il faut trouver des nouvelles sources. Donc le secteur en lui-même est aujourd'hui vraiment face à des vraies questions. On a peut-être pendant 100 ans aussi vaqué dans nos vagues de ça marche et ça tourne, on peut faire continuer, parce que la crise que nous connaissons au Luxembourg, la France, elle était plus ou moins 18 mois derrière nous. La France aujourd'hui est en train de tomber dans le trou où nous étions il y a une année. Donc quand on lit les images de la France, on voit que le Luxembourg est en train de se ressortir de la crise, et le Luxembourg a une tendance, après une crise, sortie de crise, d'accélérer beaucoup plus vite et de revenir à une situation plus saine, plus dynamique et aussi plus normale assez rapidement. Donc on est très confiant qu'on va arriver par rapport à ça.
Monsieur Guilhem, monsieur Madureira, le mot de la fin?
Un petit mot de la fin. Je ne peux que inciter et motiver nos compatriotes à revenir sur le marché de la VEFA, donc la vente en état futur d'achèvement. Pourquoi ? Parce que il n'a jamais été aussi bon marché que depuis ces derniers temps.
Monsieur Guilhem ?
Acheter de la VEFA, c'est maintenant.
Très bien. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir participé à la Bulimo, d'avoir pris le temps de venir en studio. À nos auditeurs, on se retrouve très vite pour un épisode dédié au secteur de la construction. Je vous remercie et à très bientôt.
Merci à vous aussi.
Merci.